Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette soirée de m'avoir invité pour un sujet qui est un sujet costaud que je voulais intituler « Assistance à la procréation et au protestantisme ». Alors quelques mots sur moi-même. J'ai été médecin, donc praticien hospitalier pendant 40 ans à l'hôpital de Strasbourg. Et j'ai la particularité d'avoir fait, après mes études de médecine, des études de théologie protestante que j'ai menées jusqu'au bout, mais je ne suis jamais devenu pasteur. Par contre, je me suis intéressé très tôt à la bioéthique et j'ai fait partie, j'étais membre fondateur de plusieurs comités d'éthique de l'énorme hôpital universitaire de Strasbourg. Et à ce titre-là, je suis intervenu à plusieurs reprises sur des problèmes de bioéthique. Et il y a 4 ans, le président Claveroli m'a demandé de venir grossir les rangs donc de la commission éthique et société du protestantisme. Et j'ai été à peine 2 mois que je me suis retrouvé président de ladite commission. Donc c'est une commission de 8 personnes qui traite des sujets qui sont des sujets de société, des sujets de bioéthique. Et comme je vais vous dire tout de suite, nous avons été particulièrement sollicités les 2 dernières années parce que vous savez que ça a été le moment de la révision des lois de bioéthique et donc le président Macron a demandé personnellement à toutes les familles religieuses de France de se positionner par rapport donc à des problèmes de bioéthique. Alors, dans le désordre, nous a demandé de nous positionner par rapport au début de vie, avec la PMA dont on va parler ce soir, et la GPA, mais aussi sur la fin de vie, mais aussi sur les recherches sur l'embryon, sur le génome, sur l'intelligence artificielle, etc. Donc nous, à la Fédération, dans la Commission, nous avons choisi en 1 an de nous occuper de 4 thèmes. Il y a eu le début de vie, donc là le papier est terminé, a été présenté. La fin de vie, le papier est terminé aussi. Les recherches sur l'embryon et le couteau génétique, c'est pratiquement terminé aussi. Et nous espérons pouvoir sortir avant les élections européennes un papier sur politique envers les réfugiés et protestantisme, interpellation. Nous espérons pouvoir le sortir. Encore évident. Alors, pour introduire la soirée, donc je voulais dire au point de vue bibliographique, si vous avez envie d'aller plus loin, et c'est là que j'ai pris une grande partie de ce que je vais vous raconter ce soir, il y a 2 endroits. Il y a le papier que nous avons écrit qui s'appelle Interpellation protestante sur l'assistance médicale à la procréation et à la gestation pour autrui. Le papier est récent, il date d'avril 2018 et vous le trouvez sur le site protestant.org sous catégorie société, sous catégorie éthique et santé. L'autre travail spécifiquement protestant s'appelle « Guide pour une éthique de la médecine reproductive » avec ce titre évocateur « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère ». Et ça, c'est un travail du Conseil de la Communion des Églises protestantes en Europe qui date de juin 2017. Il est aussi accessible sous le site leuenberg.eu. Alors, quand on nous demande de faire des interventions comme celle de ce soir, nous avons l'habitude d'afficher la couleur et nous commençons en général par 2 citations. Alors, la première, je la sors du livre de la Genèse au verset 1 qui dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre ». Et tout de suite, pour vous donner la tonalité de ce que je vais vous dire, un verset de la première épître de Paul aux Corinthiens, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Vous verrez, au courant du topo que je ferai, combien cette parole est pleine d'une sagesse qui nous vient du fond des temps et qui est tout à fait actuelle par rapport à la problématique qu'on va utiliser. Alors, entrons dans le vif du sujet maintenant. J'ai choisi pour vous de faire un peu le bilan de ce qui se passait dans notre beau pays de France en 2016, où nous avons eu la joie d'entendre parler de 978 000 grossesses pour les 66,9 millions d'habitants que nous sommes. Enthousiasme tout de suite tempéré par le fait que sur ces 978 000 grossesses, il y a eu 211 900 avortements. Donc une première réalité est qu'en France, une grossesse sur cinq se termine par un avortement. Donc, finalement, sont nés en France 967 000 enfants et il y en a 24 609 qui sont nés par les techniques que nous avons étudiées maintenant, les techniques d'assistance médicale à la procréation. Il y a eu 70% de fécondation in vitro, 30% d'insémination artificielle, je vous expliquais tout ce que ça veut dire. Vous voyez que ça représente peu de choses, on en parle beaucoup, ça représente 3,3% des naissances. Néanmoins, ce taux augmente chaque année entre 0,1 et 0,3% depuis une dizaine d'années à peu près. Une deuxième notion prégnante, c'est dans toutes les classes de maternelle, il y a au moins un enfant qui est né par assistance médicale à la procréation. Juste une diapo pour vous permettre de vous souvenir un peu de l'histoire. Le premier bébé qui est né par fécondation in vitro et transfert d'embryon, c'est une petite Anglaise en 1978 qui s'appelait Louise Brown. Et en fait, depuis 1978, il y a plus de 4 millions d'enfants qui sont nés par des techniques d'assistance médicale à la procréation. Nous n'avons pas été de reste en France, puisque le premier bébé né par civet s'appelait Amandine et est né en 1983. Rien que chez nous en France, il y a eu depuis 1983 plus de 200 000 enfants qui sont nés par donc assistance médicale à la procréation. Deux éléments importants qui sont passés en 2010. 2010, c'est la naissance de Jérémy et de Keren, qui sont des jumeaux qui ont été conçus à partir d'ovocytes congelés de leur mère, qui ont été gardés l'un pendant 8 ans et l'autre pendant 6 ans. Et le prix Nobel de médecine qui a été accordé à Robert Edwards en 2010, qui est le premier père des bébés fécondation in vitro, qu'on appelle aussi des bébés éprouvettes. On ne parle plus de stérilité. La stérilité, c'est un terme trop stigmatisant. On parle actuellement dans le corps médical, dans le corps soignant, mais aussi dans le corps des travailleurs sociaux, on parle d'infertilité. Cette infertilité touche en France actuellement un couple sur sept, avec une tendance à l'augmentation. Ça représente entre 15 et 20% des couples. C'est devenu un véritable problème de société et ça peut être vécu comme un véritable drame. Les couples concernés se tournent tous vers l'assistance médicale à la procréation. Pour l'instant, en France, les indications médicales à l'assistance médicale à la procréation sont réservés aux couples hétérosexuels, c'est-à-dire aux couples composés d'un homme et d'une femme. Mais je parlerai avec vous assez longuement de ce problème moderne. Faut-il permettre l'insémination de femmes seules ou de couples de femmes? On en parlera. Néanmoins, les couples de femmes et les femmes seules qui décident d'avoir des enfants peuvent aller ailleurs en Europe pour pouvoir avoir la joie de devenir mère. Les destinations les plus proches sont une clinique de Barcelone en Espagne qui insémine après un examen médical et un questionnaire rempli, aussi des femmes seules, aussi des couples de femmes, ou alors la Belgique, avec les centres francophones de Bruxelles et de Liège, sont spécialisés sur ce terrain-là. Le problème qui se pose, c'est un problème de société. Donc, faut-il ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux couples de même sexe et aux femmes seules? Le problème est encore plus difficile pour la grossesse pour autrui. La grossesse pour autrui, c'est une femme qui met son utérus à disposition pour qu'on lui introduise un embryon qui a été conçu par l'ovocyte d'une autre femme qui a été fécondé par le sperme de celui qui est destiné à être le père. Alors, ce ne sera pas le père biologique, ce sera le père social de l'enfant. Et je vous expliquerai après tous les problèmes que ça va poser. Il faut bien savoir que nous avons tous une opinion sur ce problème. Toutes les opinions sont respectables. Il n'y a aucun problème. Par contre, ces indications sociales de l'AMP clivent profondément la société française. Et je vais vous donner deux exemples. Pour les indications sociales de l'AMP, c'est particulièrement fréquent et criant pour la GPA. Vous avez en faveur de la GPA. Vous avez le dernier livre qui est sorti chez Grasset en 2018, écrit par Marc-Olivier Fogiel, que vous connaissez certainement, qui vit donc en couple avec un homme et qui est allé, je ne sais pas pourquoi employer cette expression, mais je ne sais pas comment le dire autrement, qui est allé se faire faire deux enfants par deux femmes américaines différentes, le premier avec son sperme et le deuxième avec le sperme de son compagnon. Donc il a deux petites filles avec lesquelles il vit maintenant, et dans son livre, où je l'ai lu, ça vous donne un éclairage qui est très particulier, mais disons, si vous voulez avoir une vue objective de la question, lisez-le, il est intéressant. L'autre livre est carrément contre la GPA, et là c'est la fille d'Armand Abécassis, qui est une philosophe qui est respectée en France, qui s'appelle Eliette Abécassis, qui a publié également en 2018 un livre qui s'appelle « Bébé à vendre ». Et là, elle décline toutes les raisons qu'il y a à ne pas légaliser la GPA en France. Pour l'instant, la situation est claire, la GPA est interdite en France. Rentrons encore un peu davantage dans le sujet. Quelles sont les causes de l'infertilité? La première, c'est peut-être le choix de la femme. Il y a une minorité de femmes, qu'on estime entre 5 et 10%, qui choisissent de ne pas vouloir d'enfant. Je n'ai pas besoin de sortir de ma propre famille, j'ai une nièce qui vit en couple et qui a décidé qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. C'est infiniment respectable. Elle vit en couple, ah oui, c'est que je précise, avec un homme. Et on peut aussi ne pas avoir d'enfant personnel d'orientation sexuelle qui est pousse à vivre avec quelqu'un du même sexe, donc une femme vit avec une femme. Par contre, elle ne souhaite pas se faire inséminer par du sperme de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Respectable aussi. On peut être infertile pour des questions d'anomalies génétiques ou d'anomalies fonctionnelles. C'est-à-dire, on peut avoir des trompes bouchées, on peut avoir des utérus présentant des malformations congénitales. Je voudrais m'arrêter un peu plus sur le facteur âge. Nous avons une augmentation très importante des grossesses tardives en France. Il y a 20 ans, la première grossesse en France se passait à l'âge moyen de 24 ans, 24-25 ans. Aujourd'hui, la première grossesse survient entre l'âge de 30 et de 32 ans. Là aussi, je n'ai pas besoin de sortir de ma propre famille. Sur mes trois filles, il y en a deux qui ont eu leur premier enfant, l'une à 32 et l'autre à 31 ans. Pourtant, elles vivaient en couple depuis un certain temps déjà, mais c'est une réalité qui vit. Et il faut savoir que quand l'âge augmente, les possibilités de fécondité diminuent. Ça, c'est clair, c'est une loi biologique simple. Pourtant, les femmes surtout demandent l'impossible à la médecine. Il y a, je vous ai mis là un chiffre, en 2015, il y a 41 000 enfants, donc 5,1% de naissance chez des mères qui ont 40 ans ou plus. Une grossesse à 40 ans ou davantage peut survenir naturellement. Si elle survient naturellement, c'est tant mieux. Mais elle est quand même, dans plus de 70% des cas, elle est le fruit d'une intervention médicale. Et je vais vous détailler tout ce qu'on peut faire après. Après, il y a des causes d'infertilité masculine, environ 20% des cas, d'infertilité féminine, 35% des cas, infertilité mixte, monsieur est hypofertile, madame est hypofertile, vous additionnez les deux hypofertilités, vous arrivez à 35% à peu près. Il y a des infertilités idiopathiques. Alors, idiopathique, c'est un mot que les médecins aiment bien, parce que quand ils ne savent pas à quoi c'est dû, ils disent toujours idiopathique. Alors, ce sont les gens qui ont fait tous les examens possibles et imaginables, on n'a rien trouvé, et pourtant, ça ne marche pas. Il y a, dans le monde dans lequel on vit, des facteurs généraux qui diminuent la fertilité. Vous avez tous entendu parler des perturbateurs endocriniens. Vous savez que notre alimentation est en cause. Vous savez que l'exposition à certains facteurs chimiques est en cause. Et un certain nombre d'autres choses font en sorte que les hommes sont moins fertiles qu'ils l'étaient il y a 10 ans et encore moins fertiles qu'ils l'étaient il y a 30 ans. Donc c'est un ensemble de facteurs. C'est assez complexe, comme vous pouvez vous rendre compte que quand on fait un bilan d'infertilité, il faut envisager toutes ces possibilités. Alors, cette aide médicale à la procréation, comment ça peut se passer? Quand il y a des trompes bouchées, on peut pratiquer de la chirurgie. Ce qu'on appelle c'est la chirurgie de la reproduction, on va essayer de déboucher les trompes. S'il y a des adhérences dans l'utérus, on va essayer de lever ces adhérences. Maintenant, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est qu'il faille stimuler les ovaires de la femme. Donc, c'est la stimulation ovarienne. Cette stimulation ovarienne, elle peut se faire de façon isolée ou alors elle peut se faire dans le cadre d'une fécondation in vitro. Si elle se fait de façon isolée, c'est on va donner des piqûres hormonales à la femme et pour favoriser donc la libération d'ovocytes et elle pourra avoir des enfants de façon naturelle. Ou alors on sait qu'il y a de tels problèmes qu'il vaut mieux envisager une fécondation in vitro. À ce moment-là, la stimulation ovarienne va aboutir à la création non pas d'un ovocyte, mais de plusieurs, parfois 3, 5, 8, 10. Ces ovocytes devront être prélevés et pourront être stockés et fécondés avec le sperme de monsieur, du partenaire, pour que je parle de façon moderne, du partenaire choisi par la femme. Cette stimulation ovarienne, elle a des indications médicales, certes, mais elle a aussi des effets secondaires. Une surveillance régulière est nécessaire par des dosages hormonaux, donc sanguins, et par des échographies de contrôle. Alors maintenant, il faut que je vous explique ce que veut dire un certain nombre d'abréviations que vous avez dans les journaux, vous dire aussi un peu ce que représentent les dons d'ovocytes, les dons de sperme en France. Alors, FIV d'abord, c'est la fécondation in vitro. Ça veut dire, je prélève l'ovule de madame sur son ovaire, après l'avoir stimulé de façon ovarienne, je mets l'ovocyte dans un tube à essai et je mélange cet ovocyte avec du sperme de monsieur et de cette façon-là, je peux créer un embryon in vitro. Alors, je peux certes en créer un, mais la plupart du temps, comme la stimulation ovarienne aboutit à la création de nombreux embryons, de nombreux ovocytes, en général, on féconde plusieurs ovocytes avec le sperme de monsieur, et c'est ainsi que dorment dans les frigos des Sécos en France plus de 300 000 embryons. Donc certains de ces embryons ont certes des projets parentaux, mais il y en a d'autres qui sont abandonnés, et donc il n'y a que 3 possibilités pour ces embryons. Peuvent être réclamés par leur propriétaire légitime, ils peuvent être donnés à des couples qui ont des problèmes d'infertilité, ou ils peuvent être détruits. La façon la plus simple de les détruire consiste à retirer la prise du frigo. C'est en général comme ça que c'est pratiqué. Ensuite, l'ICSI. Qu'est-ce que c'est que l'ICSI ? Alors, c'est une abréviation anglo-saxonne pour intracytoplasmic sperm injection. C'est une micro-injection. Sous microscope, on choisit un seul spermatozoïde particulièrement vigoureux et on le rentre par une pipette directement dans un ovule. L'avantage est que ça augmente un tout petit peu le pourcentage de réussite du geste. Je vous donnerai les pourcentages après. La technique moderne qui est employée le plus souvent maintenant, c'est la fécondation in vitro avec injection par micro-injection dans spermatozoïde, dans l'ovocyte. Qu'est-ce qu'on appelle FIVette ? Alors la FIVette, c'est la fécondation in vitro et transfert d'embryon. Alors, maintenant les dons de gamètes. Alors, on peut être donneur de sperme. Il y en a eu, en certains moments, en France, beaucoup plus qu'actuellement. En 2016, il y a eu plus que 255 donneurs. Donc, il y a une pénurie de donneurs. Nous, juste pour vous donner un chiffre, nous étions à plus de 700 il y a 10 ans. À quoi est due cette diminution du nombre de donneurs? À l'éventualité de lever de l'anonymat. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas d'accord pour que un jour, un enfant vienne frapper à la porte et dise « bonjour papa ». Et bon, c'est un problème à discuter. Je n'ai pas d'opinion personnelle sur la question, mais c'est quelque chose qui se pose. Question qui se pose. Plus éthiquement, encore plus borderline, sont les dons d'ovocytes. Alors, les dons d'ovocytes, comme les dons de sperme d'ailleurs, peuvent s'envisager de deux façons. Sur le plan éthique, quand monsieur doit avoir un traitement anticancéreux et veut mettre des spermatozoïdes à l'abri avant, il n'y a aucun problème éthique. Quand madame doit avoir un traitement carcinologique et veut mettre des ovocytes à l'abri, il n'y a aucun problème. Là où ça devient beaucoup plus hard, c'est quand il s'agit d'une jeune femme de 30 ans qui travaille aux États-Unis pour Apple, pour encore pour Google ou pour un certain nombre de ces grandes firmes. Ces grandes firmes ont calculé, ont fait de la pub en disant à leurs jeunes femmes, ok, vous voulez avoir des enfants, c'est normal. Mais là, vous êtes au haut de votre carrière. Les 5 prochaines années, si vous repoussez... Excusez-moi. Si vous avez un enfant maintenant, nous ne pouvons pas vous promouvoir. Et à ce moment-là, eh bien, vous serez obligé d'attendre votre tour. Par contre, si vous acceptez de vous laisser prélever des ovocytes et de les congeler, alors à ce moment-là, c'est nous qui vous payons l'intervention et c'est nous qui payons la conservation de vos ovocytes pendant 5 ans, 10 ans. Et alors à ce moment-là, nous vous promettons que nous vous donnons même 9 mois de congé de maladie maternité. Ça, pour moi, c'est de l'esclavage moderne. Mais bon, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est strictement interdit en France. Néanmoins, il y a, et j'en connais, pas dans ma propre famille, mais tout près, je connais 2 jeunes femmes qui, alors, ce sont pour d'autres raisons. Elles n'ont pas trouvé un homme qu'elles jugent d'être digne d'être le père de leurs enfants. Alors, comme elles ont déjà 35 ans, elles ont choisi de se faire prélever des ovocytes et de les congeler en attendant de trouver donc chaussures à leurs pieds. Vous voyez, on vit dans un drôle de monde. Hein. Combien est-ce qu'il y a eu de dons d'ovocytes en 2016? 720 dons d'ovocytes. Quoi dire que pour une femme, c'est pas évident. Hein. Ça demande une anesthésie générale. Ça demande de prendre des piqûres d'hormones pendant au moins 10 jours. Il faut payer de sa personne déjà. Alors que le don de sperme est beaucoup plus facile, comme vous savez. Alors, les statistiques de l'AMP. Alors, voilà encore un chiffre que je vous demande de bien noter parce qu'il est important. Quand chaque tentative d'aide médicale à procréation n'a que 25% de succès au maximum. C'est-à-dire que vous avez 75% de chances d'échec. Et il y a maintenant une loi dans l'information des patientes et des couples. On le dit aux gens. Mais il y a des choses qu'on n'écoute pas ou qu'on ne veut pas écouter ou qu'on prétend ne pas avoir entendu après. Parce que pour avoir participé à des conversations de ce genre-là, je peux en témoigner. C'est vrai que c'est un problème. Je vous l'ai déjà dit, il y a néanmoins plus de 200 000 enfants qui sont nés par civette en France depuis 18 ans, à peu près. La FIV, ce n'est pas sans problème. Il y a quand même une augmentation des accouchements multiples. quand on met deux embryons dans un utérus, c'est quand même assez fréquent qu'il y ait des grossesses gémellaires qui s'installent. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même souvent. Et il y a une augmentation du taux de prématurité. Souvent, les enfants nés par AMP n'arrivent pas au bout du 9e mois de grossesse. Mais ils naissent à 7 mois et demi, 8 mois, 8 mois, 8 mois et une semaine à peu près. Donc, cette simulation ovarienne, je vous en ai déjà parlé. Donc, la femme reçoit les hormones pendant 8 à 10 jours. La conception de l'enfant intervient comme d'habitude dans l'intimité du couple. Et donc, un chiffre un peu plus ancien, en 2008, 2,6% des femmes qui ont accouché ont eu recours à ce traitement pour favoriser la conception de leur enfant. Actuellement, en 2016, le chiffre est presque triplé. Et presque 8% des femmes en 2016 qui ont eu une stimulation ovarienne. Insémination artificielle. C'est l'injection à l'aide d'une pipette des spermatozoïdes recueillis après masturbation directement dans l'utérus le jour de l'ovulation. On distingue l'insémination artificielle avec le sperme du conjoint qui, en protestantisme, j'en reparlerai après, ne pose pas de problème parce que nous considérons en protestantisme qu'il s'agit là que d'une simple parenthèse technique. Comme c'est à l'intérieur du couple, il n'y a pas de problème. Nos amis catholiques, eux, ne sont pas d'accord. Et bon, je vous dis. Alors, l'insémination artificielle avec donneur, celle-là, elle pose plus de problèmes, même en protestantisme, quand les spermatozoïdes viennent d'un autre donneur. Alors, j'en arrive maintenant à la partie du texte que nous avons rédigé. Et tout a, en fait, commencé par une allocution du président Macron le 4 janvier 2018, où, quand il avait présenté ses vœux aux autorités religieuses, en évoquant les lois bioéthiques et la révision des lois bioéthiques, il a voulu encourager tous les courants religieux présents en France à se situer par rapport aux grands problèmes bioéthiques. Donc ça, c'est bien sûr le catholicisme étant la religion majoritaire, bien sûr l'islam, bien sûr le protestantisme, mais aussi le bouddhisme, l'orthodoxie, les francs-maçons, les agnostiques, les philosophes. Il a souhaité que toutes les familles spirituelles, comme il les appelle, rédigent des textes et viennent au Conseil d'État présenter le résultat de leur réflexion. Alors, sur ces questions de bioéthique, les protestants acceptent d'autant plus d'interpeller les pouvoirs publics qu'arrivée cette échéance des états généraux de la bioéthique, et les églises protestantes ont une conception de l'être humain qu'elles tiennent à faire valoir dans le débat public. Tout en reconnaissant, avec la communion des églises protestantes en Europe, qu'aucun modèle de vie familiale ou de parentalité ne se dégage uniformément de la Bible, les protestants sont d'avis que les possibilités ouvertes par la médecine reproductive posent de redoutables problèmes et que certaines de ces possibilités, comme la GPA, sont à écarter. Je vous traiterai ça en détail ensuite. Donc, nous avons finalement élaboré un texte qui fait une dizaine de pages, qui a été appelé Interpellation protestante sur l'assistance médicale à la procréation et à la gestation pour autrui. Alors, c'est un texte qui n'est pas un texte de théologie morale, c'est un texte qui correspond à la problématique de l'AMP à une époque donnée, c'est-à-dire au printemps 2018. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Exemple, le livre de Fogiel a été publié après. Il y a eu le livre d'Abbé Cassis qui a été publié après. La discussion a encore changé depuis. Donc, nous n'avons pas d'autres prétentions avec Chetet, de dire voilà, nous avons fait le bilan à un moment donné, c'était au printemps 2018. Alors, les interpellations protestantes en bioéthique reposent sur la conviction que la vie est un don de Dieu et que l'être humain est un être en relation, qu'il faut se soucier de la protection des plus faibles et ne jamais oublier la justice sociale. Les protestants participent au débat sociétal non pas pour défendre la position qu'ils voudraient imposer à la société, mais pour contribuer à côté et avec d'autres à la recherche de solutions respectant notre commune humanité et les droits de l'enfant. Alors, quelque chose à quoi nous tenons beaucoup en protestantisme, c'est ce que j'avais tenu au courant des travaux à ce qu'on nomme le droit au dissensus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai pu faire passer cette idée qui était de dire que le droit de participer à la conversation démocratique en matière de bioéthique implique non seulement le dissensus, mais aussi le droit à ce que les désaccords avec l'opinion majoritaire soient reconnus comme légitimes et non disqualifiés d'emblée comme réactionnaires, obscurantistes ou au contraire comme permissifs. Il serait regrettable que pour des problèmes aussi graves qui touchent autant à l'intimité des personnes et des couples qu'on se lance à la figure des anathèmes. Malheureusement, il faut dire qu'en France, nous ne sommes pas doués pour ça. Nous ne sommes pas habitués à discuter entre nous. Nous avons tendance à descendre dans la rue, à nous insulter les uns les autres. Contrairement, il faut dire que nous sommes des bébés dans l'éducation démocratique. On critique beaucoup la Hollande, on critique beaucoup l'Allemagne, on critique beaucoup les pays scandinaves, mais on peut ne pas être d'accord avec la loi sur l'euthanasie de la Hollande, et c'est infiniment respectable, mais ils ont pris 30 ans pour discuter entre eux. Ils ont abouti à un résultat que je n'approuve pas personnellement, mais je veux dire, quand on discute avec des Hollandais, tout le monde reconnaît qu'il y a 90% de la population qui est derrière eux. Et des éléments regrettables comme le mariage pour tous, et se dire c'était indigne de la démocratie française qui s'est passé là, à ce moment-là, qu'on descende dans la rue, qu'on soit incapable d'avoir une discussion de société valable, ça prouve à quel point nous sommes très nuls en France par rapport à d'autres pays européens. Surtout, plus vous allez dans le Nord, plus les gens une culture du débat démocratique. Nous avons beaucoup, beaucoup de choses à apprendre encore en France. Bon. Ensuite, une notion tout à fait fondamentale, c'est que le protestantisme, contrairement au catholicisme, n'a pas une opinion unique. Nous avons en notre sein des luthéraux réformés dont une majorité, mais pas tous, sont plutôt de tendance libérale, et nous avons en notre sein des évangéliques qui sont la puissance montante du protestantisme, parce que si le protestantisme grandit en France, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'évangéliques qui sont là. Ces évangéliques sont, mais pas tous, plutôt conservateurs en matière de bioéthique, et se rapproche du catholicisme. Et vous avez à ce sujet-là un sondage Ipsos extrêmement intéressant qui est sorti dans l'hebdomadaire Réforme en octobre 2017, avant le Grand Rassemblement National Protestant en fait. Alors, en ce qui concerne l'AMP et la GPA, l'opinion des protestants est très partagée, avec des majorités et des minorités significatives dans chaque catégorie de réponse. Alors, comme toujours, dans la Bible, le protestantisme tient, avant de faire des recommandations, à voir dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible concernant l'aide médicale à procréation? La Bible, vous savez, elle est faite de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il nous dit avec la procréation? Les récits bibliques nous font la preuve de bricolage procréatif, mais c'est impressionnant quand même. Genèse 16 plus Genèse 30, nous avons un modèle primitif de mère porteuse. Qu'est-ce qui se passe? La brave Sarah, elle a 90 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, elle dit à Abraham, mais prends donc ma servante Agar et couche avec elle, et comme ça, tu auras l'héritier que tu voulais avoir. Ce qui est le cas, est né Ismaël. Ismaël naît, les femmes se disputent entre elles, donc Sarah fait en sorte que Agar soit envoyée au désert avec son fils Ismaël, et pendant ce temps-là, Sarah tombe enceinte et aura donc son fils Isaac. Bon. Les fruits amers de l'AMP, ils sont déjà là, donc les rivalités entre les mères d'intention et les mères porteuses. Mère porteuse, Agar, mère d'intention, Sarah, puis la rivalité entre les enfants d'Ismaël et d'Isaac, ancêtres, rivalité entre les juifs et les musulmans. Ça aboutit donc déjà à l'époque à la confusion des liens, parce que ça continue dans la génération suivante. Jacob recourt à Bila, servante de sa femme, comme mère de substitution, pour procréer, qui aura le statut de concubine à côté de Léa et de Rachel. Un fils de Léa couchera avec cette concubine de son père. On a déjà le tournis rien qu'à la lecture de la Bible. Hein. Est-ce que c'est mieux dans le Nouveau Testament? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans l'Évangile, vous avez un nouveau regard sur la fécondité humaine. Disons, on prend de la hauteur. Jésus instaure une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes qui élargit les liens humains. Il annonce d'autres maternités et d'autres paternités possibles qui ne sont pas charnelles mais spirituelles. Marc 10, verset 30. Il annonce aussi des liens qui ne sont pas ceux du sang, mais ceux d'une adoption choisie. Donc Dieu est un père adoptif et ses enfants sont frères et sœurs par une foi commune. Question qui se pose, est-ce que cette adoption pourrait justifier les filiations se passant délibérément de liens biologiques? C'est-à-dire, est-ce qu'un couple de femmes qui a recours à un don de sperme anonyme, est-ce qu'il n'y a pas là éviction du père et donc éviction du lien biologique masculin? Après, j'en reviens à la citation que je vous ai faite au début de l'épître aux Corinthiens. Je vous ai même une petite impression à quel point le médecin spécialisé dans la reproduction humaine peut avoir le tournis. Et comment les couples qui viennent peuvent être complètement déboussolés. Je pense, et là même des médecins non chrétiens trouvent que c'est très sage, de se dire que le possible n'est pas toujours le souhaitable. Donc l'apôtre Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » S'agissant de l'AMP, de la GPA, les protestants veulent lucidement examiner les données et les risques des options prises sans se laisser impressionner ni par les divers groupes de pression qui s'activent sur ces questions, ni par une opinion publique qui, selon on croit certains sondages, serait devenue majoritaire en France, ni par des choix libéraux faits par d'autres pays. Même si l'opinion publique est favorable à certaines évolutions, suivre l'avis majoritaire n'est pas forcément la meilleure façon de veiller au bien commun. Est-ce que l'opinion publique mesure toutes les implications du souhait qu'elle émet des usages des biotechnologies disponibles au nom de la liberté individuelle? Personnellement, je me permets d'en douter. Ce à quoi nous tenons beaucoup en protestantisme, c'est quelque chose qui, dans le concert de la chrétienté, est peut-être moins développé, c'est que c'est cette notion que le couple, c'est certes une relation d'alliance, mais dont la fécondité est le fruit, mais pas la fidélité. Et ça, c'est nouveau quelque chose qui caractérise le protestantisme. Parce que devant la précarité du lien conjugal, certains disent c'est l'enfant qui fait la famille. Mais quand on relit la Bible, on se rend compte que le couple, c'est d'abord une alliance entre un homme, une femme et l'enfant, et le fruit de cette alliance qui le situe dans un lien généalogique. L'enfant quittera père et mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La fécondité n'est pas mentionnée dans la Bible. L'enfant n'est pas un dû. C'est une bénédiction, c'est le fruit d'une union, mais ce n'est pas un dû. L'AMP au bénéfice des couples hétérosexuels inféconds. En protestantisme, ne pose pas de problème ou peu de problèmes. Je vous rappelle que c'est quand même pas évident, parce que la FIV, je vous l'ai déjà dit, 23-25% au maximum de succès, il y a quand même un gros problème avec l'embryon surnuméraire. Ça, c'est une véritable problématique éthique. Que devons-nous faire avec ces 250 000 embryons qui sont dans les frigos de tous les Sécos de France et de Navarre? Vous savez que l'âge moyen des Françaises à la naissance, avec le premier enfant, augmente d'année en année. Je pense que ce qui est le plus préoccupant, c'est que le don de sperme ou le don d'ovule conduit à découpler la parenté génétique, biologique, sociale et légale. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, de façon plus simple, qu'un enfant peut avoir jusqu'à 5 parents. Alors, comment est-ce que j'arrive à dire 5 parents? Alors, une femme donne l'ovocyte. Un homme donne le sperme. Il y a fécondation in vitro avec ce sperme et cet ovocyte. L'embryon est instauré et mis dans l'utérus d'une femme porteuse. Et puis après arrive un couple d'homosexuels, par exemple Monsieur Fogiel et son compagnon. Je passe de 3 à 5. Et ça semble poser de gros problèmes, surtout psychologiques, voire psychiatriques, à long terme. Monsieur Fogiel prétend dans son bouquin que ce sont des inventions. Bon, moi, je ne partage pas cette façon de voir les choses. Ensuite, faut-il envisager la congélation sociale? Vous en avez déjà parlé. En permettant au couple de repousser l'âge d'avoir des enfants. Alors, plus difficile, c'est l'extension de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Je vous rappelle qu'au départ, la médecine reproductive, purement, était une médecine réparatrice d'une infécondité biologique. Mais il y a actuellement des changements du consensus social relatif au style de vie, au modèle familial. Vous le vivez comme moi, vous regardez les informations comme moi, vous lisez les journaux, je n'ai pas besoin de me de m'appesantir trop là-dessus. Il faut que nous disions quelques mots de la GPA. Cette GPA est possible en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais aussi en Roumanie et en Ukraine. Le prix varie en fonction du mode choisi. Alors, qu'est-ce que j'entends par mode choisi? Il faut distinguer en gros la GPA altruiste de la GPA marchand. La GPA altruiste, c'est celle qui se pratique en Belgique, par exemple, où la rémunération de la femme est interdite. Par contre, le remboursement des frais occasionné par la grossesse est effectivement la charge du couple qui veut avoir son enfant. Ces frais sont en général calculés de façon à ce qu'on arrive à un maximum de 10 000 euros. Si vous allez plus loin en France, donc M. Fogiel est allé aux États-Unis avec son compagnon et ils ont payé deux fois 150 000 euros pour avoir leur deux filles. Donc ça leur est revenu à 300 000 euros. En Ukraine ou en Moldavie, il y a moyen d'avoir donc une GPA pour 8 000 euros actuels. La situation actuelle, au jour d'aujourd'hui, la GPA est toujours interdite en France. Alors, le temps passe, donc je vais doucement arriver à ma conclusion et vous dire après ce que nous avons mis dans nos recommandations. Le protestantisme récuse une éthique purement naturelle, mais récuse tout autant une éthique technicienne. Pour le protestantisme, la liberté n'est pas à confondre avec l'individualisme sans limite et avec la loi de l'offre et de la demande. La liberté est toujours articulée à la responsabilité de Dieu et envers nos prochains, et elle ne peut se vivre que dans l'amour de Dieu et du prochain. Alors, l'Élysée nous a demandé de mettre par écrit ce que le protestantisme pense de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Nous avons eu au sein de notre commission des discussions extrêmement difficiles et dures entre les évangéliques d'un côté qui y sont résolument opposés et les luthéro-réformés qui pensaient que ça devrait être possible. Donc, il a fallu trouver dans notre belle langue française des nuances qui permettent de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. Et nous avons trouvé le terme de réticence. Nous n'interdisons pas, nous n'avons de toute façon aucun droit d'interdire. Nous disons simplement aux couples qui nous consultent qu'en protestantisme, on est réticent pour l'instant à l'ouverture de l'insémination artificielle à des femmes célibataires ou des couples de femmes qui ne sont pas infertiles. Il nous paraît en effet dangereux d'encourager la fabrication d'enfants à la demande et les situations qui privent volontairement un enfant de son père et pour l'exposer à des risques psychologiques et à des discriminations sociales. Il en va également de notre responsabilité à l'égard des générations futures. Par contre, pour la GPA, là nous avons été beaucoup plus clairs. Nous avons dit que nous nous opposons en tant que commission à la GPA parce qu'elle paraît nier le lien biologique entre la mère gestatrice et l'enfant, parce qu'elle risque de développer la commercialisation de la reproduction et d'exploiter les femmes donneuses d'ovules ou mères de substitution, parce qu'elle mettrait les enfants dans une situation ambiguë. Et là, nous étions tous d'accord, aussi bien luthéro-réformés que évangéliques. Néanmoins, nous savons que c'est de notre devoir de développer une pastorale d'accueil pour les couples qui auraient eu des enfants par GPA. Et le problème s'est posé déjà à Strasbourg, avec deux demandes de baptême d'enfants nés par GPA, qui, bien sûr, ont été baptisés sans problème. Mais ça vous montre toute la difficulté qu'il y a à émettre des opinions. C'est pour ça que j'ai tellement insisté pour vous dire, c'est une opinion qui est valable au printemps 2018, qui est susceptible d'être revue et relue ultérieurement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je vous remercie de votre attention, je suis prêt à répondre à vos questions.